Le grand soir.
Mélanie Croubalian, Claire Mudry, Éric Grosjean.
Le grand soir, jusqu'à 22h sur la première.
Bonsoir ou rebonsoir, si vous étiez déjà avec nous pendant la première heure du grand soir, ambiance délicieusement flippante ce soir, puisque nous parlons mort, cadavre, médecine légale, Claire, en pleine forme.
Mais je trouve qu'on rigole beaucoup pour parler de la mort, voilà.
Oui, soir, mais il s'agit de médecine légale. Ouais,
c'est à cause du boudin.
Ah, ça met tout le monde en joie, effectivement.
Eric, quelques frissons.
Petite blutwurst avec des pommes de terre.
Vous aimez, vous, le boudin, Eric?
Oui, bien sûr.
Il n'a pas l'air
très convaincu. Hein.
Ah, le boudin, ouais, le boudin.
Eric.
Tiens, voilà, du boudin.
On avait dit non, pas de blague là-dessus.
Non, je fais aucun.
Silke Graber, je vous demande pas, puisque pour vous, c'est la routine, hein, si vous avez peur ou pas. Pas peur, jamais peur.
Non.
Qu'est-ce qui vous fait peur?
Ouf. Pas grande chose, très honnêtement, parce que je pense qu'on peut mourir de peur. Donc c'est dangereux d'avoir peur, donc j'évite.
Le grand soir.
Sur la première.
Bonsoir Marc-Antoine Berthaud.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoints autour de cette table pour cette deuxième heure de grand soir. Vous êtes président de la Société d'études thanatologiques de Suisse romande et professeur à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. Vous êtes anthropologue et vous vous intéressez aux questions autour des rituels funéraires, autour du deuil, autour de la mort aussi en situation de migration, le suicide assisté et les cimetières. Donc que des thèmes qui ont trait au sujet qui nous intéresse ce soir. Ça tombe bien, vous faites bien d'être avec nous. Vous connaissez, Silke Graber et vous?
Un peu, oui.
Oui.
Vous avez déjà collaboré, je crois, sur différents sujets.
Tout à fait. On a eu l'occasion de collaborer notamment sur des levées de corps à la suite de suicides assistés sur plusieurs années. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs médecins légistes qui sont justement chez Silke.
Alors, avec des points de vue très différents, vous allez nous parler du point de vue anthropologique. Vous, Silke, toujours du point de vue purement médecine et purement technique, au fond. Hein, vous nous expliquiez ça tout à l'heure, que pour vous, un corps, c'est... un terrain d'investigation, au fond.
Exactement, oui.
Ça va être intéressant de vous entendre discuter tous les deux et de comparer ces différents points de vue. Précision quand même, études thanatologiques, peut-être que c'est un mot un peu compliqué, ce sont les études autour de la mort, Marc-Antoine Berthaud.
Oui, exactement, de manière très globale, c'est un peu l'étude de la mort dans toutes ses facettes.
On a un programmateur musical très facétieux et très amusant et qui m'a dit « Je me suis beaucoup amusée en préparant la playlist musicale ce soir ». Effectivement, écoutez ça, « Screaming Lord Sutch, Murder in the Graveyard ».«
Murder in the Graveyard ». Murder ! The killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Murder in the graveyard, red with blood. Murder in the graveyard, a terrible thud. Murder in the graveyard, a hand in the mud. Murder in the graveyard, a drunk from the pub. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. With a bashed-in head, police officer said,
"I think he's dead."
Murder in the graveyard. Murder in the graveyard.
Murder in the graveyard, a terrible fight. Murder in the graveyard, bodies lying about. Murder in the graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard.
Voilà, je disais facétieux Master Python le programmateur, mais facétieuse aussi Silke Graber, puisque vous l'avez aidé un peu à choisir ce morceau, c'est vous qui nous le proposiez.
Je l'adore, oui.
Vous disiez, j'ai choisi ce morceau pour la soirée du CURM, justement, du Centre Universitaire Roman de Médecine Légale.
Oui, je voulais faire danser l'équipe, en fait. Mais la soirée va encore avoir lieu, donc...
Ah oui, elle a été repoussée, bien sûr.
J'ai fait la playlist un peu à côté, oui.
Vous savez tout faire.
Non, mais je peux choisir des chansons. Après, souvent, j'oublie comment ils s'appellent et... Je recommence.
Shazamé, etc. Il y a aussi Dracula, il y a des chansons autour de Dracula
qui sont pas mal,
qui se dansent pas mal aussi. Donc oui, on pourra peut-être vous souffler quelques pistes pour cette playlist et ça va s'étoffer au fur et à mesure que la soirée sera repoussée. Nous sommes également avec vous, Marc-Antoine Berthaud, président de la Société d'études thanatologiques de Suisse romande. Vous êtes spécialiste, anthropologue spécialiste de tout ce qui touche un peu à la mort, les rituels funéraires, le deuil, les cimetières, le suicide assisté également. Vous avez collaboré d'ailleurs sur des levées de corps suite à des suicides assistés. Et ça doit être assez particulier d'être sur ce lieu-là où ça s'est passé. Hein. Ça doit être quelque chose. Vous allez nous en parler. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez nous raconter, je vous vois hocher la tête, par Antoine Berthaud, tout de suite.
Oui, bien volontiers. C'est vrai que c'est une expérience quand même assez particulière aussi pour un anthropologue. Hein. On est toujours sur le terrain. On essaye d'aller voir ce qui se passe très concrètement et très pratiquement. Grâce au soutien du CURM et de Silke Graber, on a pu justement accompagner plusieurs légistes. Ce qui est très particulier, c'est qu'on travaille sur appel, donc c'est assez original. 20 minutes après un appel, on doit être prêt. On pense aussi à l'habillement, on parlait tout à l'heure de l'habillement. Donc voilà, le matin, des fois, on oublie que peut-être on se fait appeler pour arriver dans une famille où en fait, on doit annoncer, faire un travail de recherche, accompagner des légistes, observer des levées de corps. Donc c'est vraiment une expérience tout à fait singulière et originale. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on ne sait jamais où on arrive. En fait, un milieu social très varié. J'ai eu l'occasion de, en une seule journée, arriver dans un lieu d'hébergement, en fait, pour une personne âgée, un peu seule. Et puis, l'après-midi, dans une villa très spacieuse, avec vue sur le lac. Donc, en fait, on ne sait jamais où on débarque. Et c'est très fascinant, en fait, d'accompagner ces légistes qui sont toujours très bienveillants, très placides, très à l'aise, au fond, avec le rapport au corps. Et pour moi, comme c'est pas mon métier, disons, c'est pas le quotidien d'être dans le rapport au corps, c'est toujours assez fascinant de les voir à l'œuvre et de pouvoir les observer.
Quelle trace ça laisse après en vous ?
Alors ça nécessite de rédiger beaucoup de notes, en fait, de prendre vraiment, de mettre à plat tout ça pour pouvoir bien comprendre ce qui s'est passé et après inscrire, si on veut, le fait que le cadavre ou la place du cadavre s'inscrit dans des relations sociales beaucoup plus larges, en fait. Et ça, c'est un peu notre rôle, c'est-à-dire que moi, je focalise pas au quotidien donc sur le corps, mais en fait, comment ce corps prend place et prend forme dans des univers familiaux, dans des imaginaires, en fait, comment les proches se représentent, en fait, la disparition du proche et comment il gère le rapport au corps. Donc tous ces éléments-là sont tout de suite transcrits. On est aussi très attentif à l'environnement, le mobilier, l'espace, la distribution des personnes, y compris nous-mêmes en fait. Est-ce qu'on ose passer le pas de la porte ? Est-ce qu'on ose s'approcher du cadavre ? Et en même temps, on voit effectivement les légistes qui manipulent les corps, qui font des choses de manière très précautionneuse, des gestes très précis. Et voilà, on est admiratif et en même temps soi-même fasciné de voir tout ça.
Il y a de l'émotion, forcément.
Il y a de toute façon de l'émotion, surtout qu'on découvre aussi les corps. Et ça, je pense que les légistes les découvrent en même temps. Et l'émotion est évidemment là, parce que parfois vous avez une personne plus jeune, vous imaginez un âge, vous faites une projection sur une personne, mais vous n'êtes pas certain en fait de son âge. Et voilà, moi je suis plutôt formé à décoder aussi des choses avec l'habillement, quand on rencontre des personnes qui ont encore un nounours, elles sont personnes âgées, mais en fait elles ont un nounours à côté d'elles. Il y a vraiment tout cet imaginaire qui se déploie et qui est vraiment très très précieux, mais qui demande vraiment une attention très, très grande. C'est fatigant, en fait, hein, quand on revient de ces levées de corps. Il faut ensuite vraiment voilà, travailler, retravailler, et partager aussi avec des collègues, parce qu'on travaille aussi en équipe, hein, comme l'a relevé à plusieurs reprises Silke. C'est vraiment nécessaire de pouvoir échanger, partager, pour diluer aussi ces émotions.
Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ce domaine-là ?
Alors peut-être de manière un peu inverse à Silke, moi je suis parti avec un travail d'étude sur les voyants en fait et les pratiques divinatoires qui mettaient en scène souvent des défunts. Donc j'étais pas du tout dans le rapport au corps, mais j'étais plutôt dans le symbolique, dans l'imaginaire justement. Et puis au bout d'un moment, j'accompagnais aussi des professionnels du soin qui étaient eux confrontés à la fin de vie et au rapport au corps. Et je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'il faut que je m'approche aussi des corps pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces relations sociales. Et là j'ai eu l'occasion de mener d'autres travaux, notamment des questions de rapatriement des corps et de défunts avec des pompes funèbres et des familles. Et je me suis intéressé, au fond, à cette question de la mort, de la place du corps dans les relations sociales. Et en fait, j'en suis plus tellement sorti depuis maintenant une vingtaine d'années.
La fin de vie, pour la première fois dans l'histoire humaine en période de paix, elle a considérablement changé de visage depuis un an dans l'Europe entière. Des gens qui sont morts seuls, sans pouvoir voir leur famille, sans même pouvoir être enterrés, entouré de leurs proches. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose auquel vous êtes intéressé, entre guillemets.
Oui, c'est un élément évidemment fondamental. On a la chance de mener justement un travail de recherche actuellement là avec trois collègues en Suisse, trois collègues en France, pour vraiment documenter, je crois que ça c'est très très précieux, ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de la pandémie, la crise du Covid-19. Les personnels du monde funéraire sont souvent un peu invisibilisés, voire oubliés dans cette pandémie. Ils font un travail aussi essentiel, un travail prioritaire. En même temps, ils doivent se protéger eux-mêmes, protéger les familles, protéger toutes les personnes qui sont en contact avec les corps, mais aussi offrir un service aux familles. Et ce service aux familles, il est quand même limité. Le nombre de personnes a été réduit. Les pratiques et les célébrations des funérailles sont aussi elles-mêmes réduites. En Suisse, par rapport à d'autres pays, on a quand même aussi eu la chance de pouvoir quand même de temps en temps continuer à offrir certains services, à pouvoir voir le corps, à la différence par exemple de la France, où il y avait des mises en bière immédiates. Donc le corps était très vite soustrait en fait au regard des proches, alors qu'en Suisse on a pu continuer encore généralement à pouvoir quand même les voir, même si les conditions étaient évidemment beaucoup plus difficiles qu'en temps ordinaire.
Des rituels qui évoluent évidemment, qui évoluaient déjà avant, mais qui ont peut-être il y a eu un catalyseur là avec le Covid. On va continuer d'en parler, mais j'ai une petite chose à vous faire écouter. C'est ce qu'on appelle une bulle.
Oui.
Je suis le moissonneur de vie.
Qui ça ?
Le moissonneur de vie.
Ah oui, je vois.
Je suis la mort.
La mort, c'est la fin de la vie.
Qui a mangé ?
Un certain monsieur mort, un nom comme ça, il vient pour moissonner, enfin c'est ce qu'il dit. Mais nous n'avons pas besoin de lui en ce moment.
Bonsoir.
I'm alive. I'm dead.
Vous savez, la mort, ça peut arriver à tout le monde.
Non, non. Non, c'est pas possible, j'ai un mot du médecin, je supporte pas la mort.
Si on a peur de la mort ou pas peur, de toute façon un jour on va mourir, donc...
Non.
De toute façon, ça changera rien.
Je suis la mort.
Je crois que je suis perdu.
Ça dépend. Vous cherchez la salle d'autopsie?
Comme je vous l'ai dit, découper les morts, triturer leur corps... C'est plus ça que j'aime.
Quand on veut savoir ce qu'il y a dans un homme, on l'ouvre.
Vous savez, le bruit de la scie sur les os à la première heure le matin, dans une chouette salle d'autopsie comme celle-là.
On ouvre sa tête, on ouvre son cœur, on ouvre son ventre. D'ailleurs, dans le langage, on dit bien « j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans la tête, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans le cœur, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans le ventre. »
Un squelette. Le squelette, il y a plein d'os, mais pas des os pour les chiens.
Bonne journée. Et on ne vous écrira pas.
Quand elle va ouvrir mon cœur, il y a quelque chose qui va tomber. Elle va se baisser pour le ramasser. C'est une feuille d'artichaut.
Qu'as-tu découvert ?
Une fois que j'ai su quoi chercher, j'ai analysé son urine. Et j'y ai trouvé du chloral hydraté en concentration élevée. Jane Cooper a été empoisonnée.
Le jour de la mort de Brassens, je pleurais comme un moule. Alors que je sais pas pourquoi, mais... Le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris deux fois des moules.
La mousse de saumon.
I'm alive. I'm dead.
Qu'est-ce qui est arrivé au petit monsieur ?
Julie.
Ah oui, c'est cette personne qui nous est arrivée en deux fois, oui.
Sans qu'on ils sont morts, ils vont sous la terre.
Je suis
lama. Je suis venu vous chercher.
Jésus, c'est à nous. Surtout-moi.
Suivez-moi.
La mort, ça me rend très triste.
Le poissonnier m'avait promis d'avoir du saumon frais. Et d'habitude, c'est un homme de parole. Je suis...
Est-ce qu'on peut emporter nos verres?
J'ai l'autre idée.
Mais ça me fait pas peur. Mais ça me rend très, très triste.
Ça veut dire qu'on n'est plus là, qu'on est au ciel.
Bonsoir. Bienvenue au ciel.
Mais on aime tant dans les étoiles aussi.
Croyant, mais moi aussi j'étais croyant. J'étais même vachement doué. J'ai eu mon baptême à 3 mois.
Ce qui se passe après la mort? Ah non, je sais pas. Tellement j'ai quelques idées, mais je sais pas. Faut qu'on soit mort pour savoir. Mais je suis pas très envie, quand même.
Je suis la mort.
You dead.
C'est signé Fred Facio, autrement dit Wonderful Fred. C'est notre réalisateur qui nous a concocté ce mix. Alors c'est plein de références. On n'a peut-être pas tout capté, mais enfin quelques bribes. En tout cas, il y avait Six Feet Under, la mort des Monty Python que vous avez peut-être reconnu de ce fameux sketch. C'est la mort qui vient chercher les gens qui ont mangé une mauvaise mousse au saumon. C'est un peu périmé. Elise Moon et Albert Dupontel pour les sketchs. Et puis la chanson des Cure, Dead Alive. Avec les voix d'enfants qui étaient dans un reportage Faut pas croire de la RTS et qui racontent. Alors, c'est intéressant ces voix d'enfants et ces témoignages d'enfants. J'aimerais vous entendre réagir tous les deux, peut-être d'abord Silke Graber, sur ce que vous avez entendu.
Moi, j'aimais bien le dernier. Je pense un peu pareil. Pour savoir ce qui se passe après la mort, il faut être mort. Mais on n'a pas vraiment envie, donc il a tout à fait raison.
Donc, quoi, on est curieux. Vous êtes curieuse, vous?
Oh, je peux attendre, il n'y a pas de souci. Je peux bien profiter de ce que j'ai actuellement et l'étape suivante viendra et serait mieux ou pas bien. On verra bien.
Donc pas d'hypothèse pour vous?
Non.
De ce qu'il y a après?
Non. Aucune.
Parce qu'on recevait il y a quelques temps, ici même, la chef du service d'oncologie du CHUV, Solange Peters, qui elle est persuadée qu'il n'y a absolument rien.
Oui, mais... Où est la surprise après, donc? Non, je préfère de me garder une petite surprise, un petit, si on veut l'appeler, un petit espoir ou une petite imagination. Sinon, je trouve un peu triste.
Il se passe encore des trucs après la mort. J'ai lu dans une de vos interviews que vous disiez que les pupilles bougeaient encore, parfois une demi-heure après qu'on soit mort, que le cadavre, comme ça, peut nous faire un clin d'œil.
Ah, même plus, il peut faire plein de choses, il peut nous sourire, il peut faire un clin d'œil, et ça c'est les muscles en fait qui sont encore réactifs. Et c'est tout simplement parce qu'on meurt en fait en plusieurs étapes. La mort, c'est pas pouf, je suis mort et c'est fini. C'est vraiment d'abord la mort cérébrale, et après c'est la mort biologique, et en fait chaque organe ou chaque tissu de notre corps a un autre temps de survie. Et du coup, si moi je suis mort, mon cerveau il est même plus dans de boîte crânienne, par exemple, mais mon foie, il a toujours pas compris, il fait son travail de foie, et c'est grâce à ça qu'on peut le transplanter, justement.
Et on dit souvent que les ongles et les cheveux poussent encore après la mort, c'est vrai ça?
Non, c'est pas vrai, mais ça fait semblant comme s'ils poussent encore, mais en fait, c'est plutôt le reste qui se déshydrate, et du coup, c'est la peau qui se rétracte, et du coup, ça semble plus long, les cheveux qui restent, parce qu'en fait, le corps, il est plus...
Ah oui, c'est ratatiné en fait, alors les cheveux...
Exactement, et les ongles aussi, ils sont moins couverts et du coup, ils semblent plus longs.
Une réaction, Marc-Antoine Berthaud, à ce qu'on a entendu là?
Moi, je trouve intéressant la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Parce que j'ai l'impression que ça stimule tout de suite notre imaginaire. Qu'est-ce qui va survivre, aussi en termes que ce soit de représentation symbolique ou de croyance? Mais au fond, qu'est-ce qui se passe après la mort? Il y a ce que font parfois les légistes, parfois les pompes funèbres. Enfin, les corps sont traités, on fait faire des choses au corps. Il y a une sépulture, il y a une crémation, il y a une inhumation. Il y a un rapport encore des familles à ce corps, à cette matérialité du corps. Donc, je trouve intéressant quand la question est posée, très souvent, c'est dans l'idée qu'il y a une survie, il y a quelque chose qui continue. Et voilà, c'est un indicateur, je trouve, encore intéressant de ce qui reste dans notre société, dans notre collectivité, voilà, en termes de représentation de, pourquoi pas, de l'au-delà, d'une survivance quelconque qui est toujours présente.
Je profite juste pour dire que nous avons toujours notre téléphone intelligent auquel vous pouvez nous écrire au 076 4 6 2 8 7 1 2 si vous avez des questions, je sais pas, sur la mort par exemple, ou si vous savez ce qu'il y a après la mort.
Mais justement, il y a quelqu'un qui nous demande sur ce, je viens de voir un message arriver, l'histoire ne dit pas à quoi servent vos recherches, Marc-Antoine Berthaud. Pourquoi ces recherches ?
Alors, ça dépend déjà laquelle. Donc, effectivement, je réponds par un petit détour. Mais si je prends la recherche que nous menons actuellement sur la pandémie, je pense que c'est essentiel de pouvoir documenter ce qu'il se passe parce que la mémoire est très faible, en fait. On oublie très vite. Et peut-être que dans 10 ans, on pourra effectivement revenir sur des situations qu'on a vécues en situation. Et nous, on insiste beaucoup sur le fait de pouvoir quand même encore aujourd'hui aller voir très concrètement ce qui se passe pour ne pas perdre cette mémoire. Et je crois que ça, c'est essentiel de documenter ces situations-là pour mieux les comprendre, pourquoi pas anticiper par la suite, voilà, parce qu'apparemment on n'a pas toujours tiré les leçons du passé.
Pour avoir un précédent, pour dire voilà ça, comment ça s'est passé en 2020.
Voilà, la gestion des masques, le rapport à l'hygiène, la façon dont on finalement se prémunit ou on se protège justement d'une contagiosité des corps éventuellement. Donc il y a toute une réflexion qu'on peut mener parce qu'on observe aujourd'hui et maintenant ce qui se passe.
Pourquoi est-ce qu'on aime autant ces histoires de gens morts qui se relèvent et qui revivent dans toutes ces séries genre Walking Dead, Fear of the Dead, qui sont très à la mode depuis maintenant quelques années
J'ai l'impression qu'il y a un vrai fondamental anthropologique dans ces éléments-là. Et ça rejoint la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, Murder in the Cemetery, in the Graveyard. C'est quand on doit tuer le mort, au fond. C'est-à-dire qu'on supporte pas l'ambiguïté de ce statut, mais cette ambiguïté, elle est nécessaire, en fait. Il y a toujours un rapport avec le mort, comme si potentiellement il est encore un peu vivant. Mais c'est une idée aussi qui est pas tellement supportable. Donc, à un moment donné, on doit marquer une limite, marquer une frontière. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Dracula. Dracula, c'est exactement ça. Parce que on doit finalement lui couper la tête et lui planter un pieu dans l'abdomen. Et ce pieu doit se planter en plus dans la terre. Donc on a bien ici en fait cette notion de tuer le mort, parce que si on est encore un peu vivant, mort vivant, c'est insupportable. Mais en même temps, ça stimule beaucoup notre imaginaire. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de fantaisie avec la mort. C'est un voyage qui a stimulé beaucoup de créativité. Et je crois que ça fait cette richesse. À la fois, ça fait peur, évidemment, c'est terrifiant, chacun se pose des questions. Mais en même temps, ça nourrit une très belle créativité.
C'est peut-être le plus grand mystère de tous les humains, finalement. Puisque, comme le disait ce petit garçon dans l'archive qu'on a entendu là, personne ne peut savoir ce qui se passe après. Donc, on essaye d'imaginer des possibilités. Et puis, bien sûr, l'art et la culture viennent là-dessus inventer des histoires, pour avoir moins peur, peut-être.
Pour avoir moins peur, beaucoup d'histoires font peur aussi, hein,
pour se faire
de la
peur,
mort.
Et après,
les enfants parfois aiment aussi des histoires où ça fait un petit peu peur. On n'a pas tous la même représentation de la mort. Les enfants, on dit souvent qu'ils n'ont pas une représentation de la mort finalisée, mais je suis sûr que les adultes souvent ne l'ont pas non plus. Donc voilà.
D'ailleurs,
on projette,
c'est très rare dans nos sociétés de voir même un mort.
Oui, c'est vrai.
C'est très caché.
Ça existe encore, mais les personnes qui voient concrètement des cadavres, hormis des fois dans les familles, mais ce sont beaucoup des professionnels, mais en fait, ça constitue une minorité de la population.
Comme si on en avait peur aussi, de ces corps.
Ou c'est aussi des questions d'opportunité. Où est-ce qu'on peut voir des corps, en fait? Les plastinations de Günther von Hagens, peut-être que vous en avez entendu parler, avec ces expositions, ça a attiré énormément de spectateurs. Là, on est proche de la muséographie où on présente des corps humains vivants traités. Donc, on est là dans un registre tout à fait singulier, tout à fait particulier, en fait, qui mérite aussi d'être analysé, compris, réfléchi.
Mais c'est vrai que dans les cérémonies, par exemple, vous parliez de mise en bière immédiate en France. Alors ça, c'était dans des conditions Covid, mais très souvent dans une cérémonie, le cadavre est soigneusement rangé, il est embaumé entre guillemets, en tout cas nettoyé, maquillé, etc. Il n'y a pas de contact direct avec la mort brute. Finalement.
Il pourrait, hein. L'embaumement permet effectivement de présenter les défunts, mais on peut les toucher aussi dans certaines collectivités, certaines communautés, on peut embrasser le mort, encore aujourd'hui ça se fait. Donc il y a une vraie diversité dans les pratiques ritualisées
autour
de la mort.
Du monde.
Oui, autour du monde, mais même chez nous aussi, Suisse, avec les communautés notamment migrantes, mais pas que. Voilà, on serait étonné en fait de la diversité des pratiques autour de la mort.
Selon les médecins, qu'est-ce que la mort, Silke Graber? Parce que j'ai noté une phrase qui m'a interpellée, que vous avez dite. Vous avez dit « Il est dommage que les médecins envisagent la mort comme un échec ».
Oui, parce que je pense la mort peut aussi être une solution pour une maladie justement qui n'est pas curable, pour des souffrances qui sont insupportables. Et oui, personne ne sait qu'est-ce qui va se passer après. Mais si ce qui se passe actuellement est tellement insupportable, bah, il faut pas se dire, il faut garder un patient en vie le plus longtemps que possible pour prouver mon patient a survécu un certain temps, mais vraiment de penser au patient et si lui, à un certain moment, il est fatigué de se battre contre des maladies, mais aussi de le laisser partir. Et à ce moment-là, je trouve c'est là où le médecin il est demandé, pas comme soignant, mais quelqu'un qui accompagne la personne à la mort. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc, heureusement, on a des médecins qui sont spécialisés dans ce domaine. Mais à la base, tous les médecins devraient une fois au moins, pendant leur cursus, se poser la question, se dire, mais qu'est-ce que je fais? Comment je dois réagir à ce moment-là? Et on essaye vraiment aujourd'hui d'intégrer, en fait, la mort comme une partie de la médecine, plus en plus dans le cursus aussi des médecins. Et je trouve déjà les dernières 5 ans, on a vu un peu une différence. Donc je me souviens que je donnais des cours aux étudiants, je leur explique comment on constate le décès. Ils me disent « Pourquoi vous nous montrez toutes ces images terribles ?» Alors que je vais jamais faire ça. Et quand on leur dit « Mais ça fait partie du travail des médecins aussi de constater le décès, c'est important que vous le savez », ils disent « Ah non, je vais pas faire ça ». Alors qu'aujourd'hui, on a les jeunes étudiants, ils sont beaucoup plus intéressés et je pense qu'ils ont compris ça, que ça fait partie.
Fait. attendez, juste pour que je comprenne, Hank Reilly était mort ou vivant?
Il n'a pas été fait d'autopsie complète puisqu'il avait été déclaré mort à l'hôpital. La cause semblait plausible et le médecin a signé le constat.
Je peux y aller?
Non, vous pouvez pas y aller. Une question, Camille. Comment a-t-il pu passer pour mort auprès de deux équipes médicales?
Il existe plusieurs formes de paralysie pouvant s'apparenter à la mort.
L'embaumement aurait dû détruire toute trace de toxine paralysante dans son organisme. Excepté... une infime trace de la toxine peut encore être décelée dans l'humeur vitrée de l'œil.
Je crois que notre invité est consterné.
Vous êtes arraché quelques cheveux, Silke Graber, en écoutant ça. C'est un extrait de Bones, une série où on voit en pleine action une médecin légiste, justement, qu'on entendait là. Alors, j'imagine que ce n'est pas du tout votre quotidien.
Non.
Qu'est-ce qui vous a fait tellement lever les yeux au ciel?
C'était l'histoire des toxiques, de l'embaumement et le fait de chercher dans l'humeur vitrée, mais c'est pas vraiment là où je chercherais, en fait. Non. Non, on peut chercher plein de choses dans l'humeur vitrée, mais pas les toxiques normalement.
Et en plus, vous êtes meilleur que les Américains. La médecine légale romande, elle est au top. C'est plutôt les Américains qui vous demandent des conseils de temps en temps.
Ils devraient demander plus souvent. Ils les font rarement et ils sont plutôt désespérés quand on fait des cours, des formations, parce qu'ils disent clairement pour eux c'est pas possible.
Ils n'ont pas les moyens.
Non, ils n'ont pas les moyens et c'est vraiment désespérant. Franchement, si on regarde leur quotidien, je pense aux États-Unis, je ferais peut-être pas ce travail et surtout je pourrais pas faire de manière que je le fais ici.
Est-ce qu'il est bâclé?
Parce qu'il n'y a pas de temps, il y a beaucoup de morts, très peu de temps par corps. Mm-hmm. On n'a pas les moyens techniques, on est toute seule. Il ne faut jamais travailler toute seule dans une scène de crime, par exemple, ou dans une morgue avec le mort pour faire une autopsie, parce qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas documenter, faire les autopsies en même temps, et forcément, on va le faire moins bien.
Il y a quelque chose qui m'avait frappé quand, en préparant l'émission, j'ai lu des interviews que vous aviez données et plusieurs fois vous dites qu'il devrait y avoir plus d'autopsies puisqu'il y a beaucoup de décès qui sont inexpliqués pour vous et qu'on a tendance à classer un peu vite comme des décès naturels.
Oui, en effet. En fait, il y a des statistiques qui montrent pour que le décès ou les morts non naturelles nous échappent pas, combien des pourcentages d'autopsies médico-légales on devrait avoir. Et là, en Suisse, on est largement au-dessous. Et c'est très varié d'un canton à l'autre. Et en fait, ce qui se passe tout simplement, une fois qu'un médecin a constaté qu'il s'agit de mort naturelle, et ça, il constate juste en regardant le corps, donc si on demande les gens, mais qu'est-ce qu'il a fait le médecin pour constater le décès, on se rend compte, souvent, il déshabille pas le corps, il regarde pas en détail, il faut vite, certains n'ont même pas touché, ils ont fait le constat depuis la porte sans aller s'approcher. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait être différent, parce que déjà, on voit, et je l'ai écrit dans les livres, il y a même des morts qui sont même pas morts. Alors, comment, si le médecin est même pas capable de constater si le mort est vraiment mort, comment il peut dire qu'il est mort de mort naturelle?
C'est quoi une mort naturelle?
Une mort naturelle, ça veut simplement dire qu'il n'y a aucun acte extérieur ou aucun événement extérieur qui a joué un rôle. Donc un événement extérieur, ça peut être un accident, ça peut être un homicide par exemple, ou ça pourrait être un suicide aussi. Donc c'est vraiment l'origine, en fait l'origine du décès est due à une maladie, à un événement à l'intérieur du corps, dû à une pathologie en fait.
C'est vrai que là, quand on parle autopsie, c'est assez frappant hein, de lire ça dans le livre. Vous dites, il y en a pas assez, et c'est différents médecins. En fait, il y a un médecin qui est d'abord appelé pour constater le décès, et une fois qu'il a constaté le décès et qu'il a dit que c'était pas une mort naturelle, l'enquête commence. Mais c'est pas comme dans les séries où le médecin arrive et dit on va faire une enquête tout de suite.
Non, justement, et il y a deux possibilités. Souvent, si tout va bien, il y a la police et il y a un médecin. Mais si la police est le premier qui arrive sur place, ils sont obligés d'appeler un médecin parce que c'est qu'un médecin qui peut déclarer une personne comme mort. Par contre, si le médecin est le premier qui arrive, lui, il n'est pas obligé de demander encore un deuxième avis à la police. Donc ça veut dire les personnes desquelles on attend qu'ils meurent, typiquement les personnes âgées, le médecin met mort naturelle et jamais personne ne va aller vérifier. Dans la plupart des cas. Donc, il faut vraiment que la famille dit on suspecte quelque chose ou qu'il y a une autre personne qui est impliquée qui annonce suggère, qu'il y a un problème. Ouais. Et de temps en temps, c'est même les ponts-fenêtres qui déclarent des cas
au procureur et à la police. Et ça parce qu'ils trouvent, eux, quelque chose de suspect sur les corps, alors qu'ils n'ont pas de formation pour.
Alors qu'ils sont en train de nettoyer le corps de
voilà. Ou parce qu'ils se rendent compte, mais en fait, il n'y a pas d'identité. Donc, il y a même des cas où il y a un mort et il est déclaré mort, mais on ne connaît pas le nom, on ne sait même pas qui c'est. Et pour les ponts funèbres, c'est embêtant parce qu'ils ne savent pas où adresser la facture, tout simplement. Ah. Sauf que normalement, chaque personne non ou inconnue qui est mort devrait être déclarée à la police. Il faut faire une enquête déjà pour savoir qui c'est.
Mmh. Savoir son identité. C'est vrai que c'est beaucoup moins glamour ce que vous décrivez que dans les séries. Hein. Vous donnez notamment l'exemple de comment on prend la température d'un corps. Vous dites inutile de faire un trou alors qu'il y en existe déjà. Hein.
Oui.
Donc la température rectale, ça va très bien aussi pour un cadavre. Parce qu'on voit aussi souvent dans les séries qu'on ouvre très facilement. Vous parlez de la taille des bistouris et des instruments. Hein. Dans les séries, c'est toujours très délicat. Un joli petit bistouri. Et vous vous dites, nous on travaille avec des choses qui ressemblent à des couteaux de cuisine.
Oui, ça dépend un peu du médecin légiste. Moi, j'aime bien les grands couteaux. Ils coupent plus fin que les petites.
Je pense que cette séquence sera dans le best-of de lundi.
J'imagine.
Couplé à votre recette de cuisine sur le boudin, Claire.
Quel est le pire ennemi du médecin légiste? Parce que vous parliez de... On ne peut pas tout faire, il faut être plusieurs. J'imagine le temps, peut-être? Peut-être un ennemi?
Je dirais pas forcément le temps. Je pense que c'est plutôt justement le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sans nous. En fait, c'est plutôt le fait d'être absent dans les enquêtes qui nécessiteraient clairement un médecin légiste, même dans les examens des personnes vivantes. Beaucoup est fait sans nous. Et c'est une spécialité toujours méconnue. Elle n'existe pas depuis très longtemps. Et si on regarde dans l'histoire, c'était toujours n'importe quel médecin qui s'occupait des morts. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des médecins, des collègues, donc cliniciens ou les médecins privés qui n'ont pas compris que les morts aussi, ils ont le droit à leur spécialiste. Et ce fait de ne pas être appelé, cette méconnaissance, en fait, c'est ça un ennemi.
Ça pourrait être aussi, Marc-Antoine Berthaud, le lien à la tradition ou au rituel, ça pourrait être un ennemi? Par exemple, le fait de devoir vite enterrer quelqu'un?
Ouais, ça dépend aussi des communautés par rapport à ça. Certaines communautés souhaitent enterrer beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais je voulais peut-être juste réagir par rapport à ce que Silke disait par rapport à... J'en perds mon fil, tout d'un coup. Ça doit être l'effet de la mort.
C'était les grands couteaux.
C'était les grands couteaux qui coupaient le boudin.
C'était oui, l'identité peut-être des
perturbants.
C'était perturbant. Non, mais c'est une idée qui m'a traversé la tête et qui a disparu.
Ça vous reviendra peut-être. Reviendra.
Moi, j'ai juste une question encore par rapport aux séries télévisées dont on parlait avant, qui effectivement donnent une image du métier qui est beaucoup plus glamour que ce que c'est en réalité. Est-ce que depuis qu'elles sont apparues, il y a eu vraiment plus d'intérêt pour le métier de médecin légiste?
Ah oui. Ah oui, clairement, parce que je me souviens quand moi j'ai postulé comme médecin légiste, c'était un peu la seule. Quand moi, à peine dans les études, j'ai dit que je veux faire la médecine légale, tout le monde m'a quasiment déclaré comme folle. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes.
Et beaucoup aussi, de femmes.
Beaucoup de femmes, oui. Mm-hmm. Et on a aussi beaucoup des étudiants qui découvrent, en fait, ce métier lors des cours qu'ils ont à l'université et qui demandent déjà de venir faire un stage. Et depuis le stage, en fait, c'est là où ils se disent c'est quelque chose pour moi ou plutôt pas. Donc, on a beaucoup de gens qui veulent découvrir le métier et de ces gens-là, on a vraiment des postulations à large échelle. Donc, nous, on a vraiment la chance parce que si on cherche leur élève, bah, il y a des personnes qui sont intéressées. On peut vraiment se permettre de garder les meilleurs dans le centre.
Donc même si ces séries sont fausses, on peut leur dire merci.
Oui. Pour recruter les gens, c'est magnifique. Pour pouvoir parler du métier, c'est magnifique. Il faut juste un peu corriger l'image et mettre un peu de vérité dans toute cette glamour. On est quand même un peu glamour aussi, on veut, mais pas autant que dans les films.
Devant moi, vous l'êtes. Marc-Antoine Berthaud.
Voilà, c'est revenu grâce à l'association des mots, mais effectivement, c'était sur les informations fausses dans ces séries, ce que je trouve assez intéressant. Moi, quand j'étais petit, je regardais souvent Columbo, j'adorais ça, mais il n'y avait jamais de corps, en fait. Il n'y avait pas de cadavre, il n'y a pas de corps. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a une focalisation dans l'imaginaire des corps. En fait, on est vraiment fasciné, on veut voir ces corps. Alors même si tout est faux sur le plan de la médecine légale, ce que je trouve intéressant d'un point de vue anthropologique, c'est qu'il y a un rapport au corps qui questionne en arrière-fond cette notion de ritualité aussi, en fait. Où sont passés ces corps? Et on les voit dans les films, en fait. Donc les corps, ils sont très très présents. Et ça, je trouve assez intéressant et ça mérite effectivement une certaine attention parce que les médecins légistes nous invitent à un certain voyage dans le corps, en fait, de manière très technique. Hein. On va observer, on va voir, on visualise avec ce que vous avez développé, l'angiographie et post-mortem, on voit tous ces vaisseaux sanguins, donc ça aiguise nos sens aussi de manière très concrète. Donc je trouve ça, c'est un élément assez fascinant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, siècles, il y a 200 ans environ, l'anatomie n'était pas si évidente, en fait. Ouvrir des corps et les disséquer n'allait pas de soi. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un petit peu de soi. Mais l'invitation au voyage se fait à l'intérieur des corps, en fait. Pas sous forme de méditation, mais sous forme aussi d'exploration de ces intérieurs des corps. Et je crois que ça attire beaucoup, en fait, la collectivité, les gens s'intéressent, en fait, quand même au corps et au corps mort.
Et au corps comme terrain d'investigation, comme on le disait, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses en allant fouiller dans le corps, finalement.
Bon, on n'en fouille pas trop, on sait normalement.
C'est pour ça que j'hésite en disant ce mot, parce que dans votre livre, vous insistez vraiment sur le fait qu'on ouvre le moins possible.
Oui, donc l'idée est vraiment avec le moins de dégâts qu'on a, et surtout, si on ouvre le corps, de pouvoir aussi le refermer pour lui rendre de nouveau complète à la fin de l'examen.
Et c'est là qu'on retourne à vous, Marc-Antoine Berthaud, avec les rituels et tout ce qui a trait à la symbolique, finalement.
Exactement, il faut qu'il y ait une certaine esthétique aussi du défunt. Il faut qu'il reste présentable, visible, qu'on soit confortable, en fait. Mais qu'on remarque quand même que la personne est bien décédée, ce que je disais tout à l'heure. Mmh. L'ambiguïté, on la supporte pas, en fait. Donc, on donne des soins, on rétablit l'image du défunt. Évidemment, c'est nécessaire, mais en même temps, il faut qu'on retrouve, en quelque sorte, les stigmates, en fait, de la mort. Et ça, c'est un paradoxe qui est, je crois, assez central dans la façon dont on vit avec la mort.
Mmh. Il y a quelqu'un qui nous écrit sur notre téléphone intelligent pour poser une question qui, je pense, s'adresse plutôt à vous, Marc-Antoine Berthaud. Ce que vous pensez des expériences de mort imminente?
Alors, j'aurais qu'un avis, au fond, de chercheur ou d'anthropologue. Ça aiguise ma curiosité, ça m'intéresse de savoir comment les personnes vivent ou parle de ces expériences. Par contre, j'ai pas un avis arrêté en me disant oui, c'est possible, ça existe, ça fonctionne. Je m'interroge beaucoup, par contre, sur la limite que ces personnes essayent de mettre en œuvre ou de travailler, au fond. Qu'est-ce que ça signifie, ces représentations, et comment elles les expérimentent? Alors, moi, je m'arrête là, je dirais. Je m'arrête, en fait, à essayer de comprendre les expériences des autres. Donc, j'en ai moi-même jamais vécu. D'un point de vue très rationnel, je me dirais, non, il n'y a peut-être rien. Mais en même temps, on est un peu titillé par tout ça. Et voilà, mon intérêt va jusqu'à être curieux de ces expériences.
On revient à la phrase de ce petit garçon qu'on entendait. C'est comme la mort, finalement. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir.
Exactement.
Ce que c'est. Ça, vous voulez dire un mot là-dessus, Silke Graber?
Non, j'ai trouvé juste beau de dire donc qu'on n'a pas vécu la mort. Parce qu'à la base, on ne la vive pas.
Oui.
Justement.
On la meurt. Peut-être. Il y a Joël qui nous pose une question un petit peu plus concrète, qui nous demande quelle est la série la plus réaliste ou la moins réaliste. Je crois que vous n'êtes pas tellement spécialiste des séries, Silke Graber.
Non, moi j'aimais vraiment. Il y a une série qui a plein de choses réalistes, qui est Dexter. En plus, je l'aime bien parce que...
Il est rigolo.
Oui. Par contre, c'est aussi exagéré. Donc typiquement, Dexter, qui à la base n'est pas du tout médecin, mais qui est un forensicien, si on veut, devrait juste s'occuper des traces. Donc c'est plutôt la police scientifique, mais il prend régulièrement les rôles du médecin légiste. Après, ce qu'il dit n'est pas faux. Je dis pas que c'est juste, mais c'est pas faux. Et par contre, c'est juste pas son rôle.
Ils ont tout regroupé dans un personnage, c'était peut-être plus simple aussi pour
exactement,
le casting, j'imagine. Écoutons Pink Floyd, Brain Damage.
Le grand soir.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
Et voilà, santé, Silke Graber. Vous avez versé un petit verre de vin rouge. Et oui, car c'est le grand soir, nous sommes tous autour de cette table. Et on a à manger, on a à boire, enfin vous surtout, nos invités. Nous, on ne mange jamais, jamais.
Non, on boit non, jamais non plus.
C'est vrai.
Non, non, jamais.
Nous sommes des robots. C'est l'heure du blind test. Vous savez, on a tous les soirs, aux alentours de cette heure-ci, dans le grand soir, un blind test. Alors un blind test, je vous rappelle les règles, c'est un jeu où on vous passe des chansons et vous devez deviner l'interprète ou le titre de la chanson ou les deux. Vous êtes désespéré, Silke Graber, ne oui, le soyez pas, tout ira bien. Même si vous ne trouvez rien, je vous promets de vous mettre au moins un point.
Merci.
Même si vous ne trouvez rien.
Bah, je suis vraiment nulle pour ça.
Bah, c'est vrai que vos références musicales sont plutôt germanophones, puisque vous avez grandi en Autriche.
Oui.
Donc ça, on l'a dit très brièvement tout à l'heure. Donc peut-être que ça sera un petit peu... Mais quoique, il y a aussi des chansons anglophones, il y a de tout. Le thème s'est absolument imposé à François Piton et moi ce soir. Le thème, c'est la mort.
Mmh. Ah, c'est bien vu.
Voilà. et nous avons 8 titres donc à trouver. Donc tout le monde participe, mais chacun pour soi, évidemment. Pas de soufflage, pas de trichage, rien du tout. Chacun pour soi et hurlez le plus fort dans votre micro dès que vous avez trouvé quelque chose. C'est parti.
Georges Brassens.
Claire, bravo, un point.
Aucune idée du titre, mais
alors il a un rapport avec la mort.
Les funérailles.
C'est un titre très long.
Des fleurs dans les trous de son
qui
nez.
Fait référence à une ville où vous aimeriez aller faire un grand soir un de ces soirs, Eric. Oui.
J'ai droit à un quart de point.
Oui, 2 points, allez Claire. C'est la supplique pour être enterré à la plage de Sète, de Brassens.
J'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille.
Allez, deuxième chanson.
Et
Whitney, non,
ah,
Houston.
Mais Claire Mudry, qu'est-ce que vous avez pris comme vitamine?
Non, mais Whitney Houston.
Dans Bodyguard, absolument.
Mais je sais pas.
Quel rapport?
Parce qu'elle est morte, non? J'ai pas vu le film.
Il y a une histoire de mort.
I will always love you.
Exactement, oh. Eric. Eric Grosjean.
Heureusement que c'était pas un karaoké.
Ah, vous pouvez. On pourrait transformer ça. Quelle bonne idée.
Par égard pour
Marc-Antoine
tout le monde.
Berthaud, vous me faites signe. Non, surtout pas de karaoké.
Pas cette heure-ci, en tout cas.
Ah, moi, je peux, mais tout le monde me dit qu'il faut arrêter tout de suite. Donc.
Ah oui. Disons, pour faire Whitney Houston, il faut quand même avoir du coffre. Hein.
Je crains que personne ne soit à la hauteur ce soir.
Bon, alors, changeons. Une vieille chanson.
Notre Père qui es aux cieux.
Cette voix, vous la reconnaissez quand même.
Restez-y.
Too French.
Et nous restons
sur la terre. Très
brillant. Un peu italien non, quand même soit. Aussi.
Si joli.
Je vous aide là quand même. Il a un nom italien.
Reggiani.
Oui.
Ah, je
Serge.
Oui, Eric Grosjean. Serge Reggiani.
Notre Père qui es aux cieux.
Quand j'aurai du vent dans mon crâne. Une chanson très joyeuse.
Du vent.
J'apprends des choses.
Ah ouais. Je vous donnerai la liste.
Oui, c'est la playlist pour la soirée cure.
Exactement. Je vous ai dit qu'on vous en soufflerait quelques-uns. Ah, il y en a une maintenant qui arrive qui est assez glamour.
Dead or Alive, non?
Non.
Bien tenté.
Viens, mais ne viens pas.
Dalida.
Oui, c'est Dalida. Bien, bravo, Eric.
Oui, oui, oui.
Et le titre?
Je veux qu'il tombe.
La réponse, elle est là.
Moi, je veux mourir sur scène.
Mourir sur scène, c'est le titre de cette chanson qui est absolument glamour. Vous l'avez peut-être déjà vu, Dalida en robe lamée dans certaines émissions de télévision chanter cette chanson.
C'est pas une robe pour médecin légiste.
Non, non. Mais peut-être qu'elle a un petit costume, non, parce qu'elle n'est pas médecin légiste. Elle est belle, cette chanson de Dalida, à part ça.
Ça serait un joli cas, mourir sur scène.
Oui, pour vous. Pour venir faire une enquête.
Beaucoup en rêvent en ce moment. Non
n'importe quoi, sur scène, s'il vous plaît. Les Suisses de ce blind test, parce qu'on essaye toujours de glisser des Suisses. Les voici.
Les Dead Brothers.
Oui, bravo. Absolument. Mais quel talent, Eric Grosjean. I know they're after me, I know they ain't far. Vous avez le titre?
Non, là, non.
Alors, il va très bien dans le thème. Everything's dead. Tout est mort.
Ça me plaît.
Alors, retenez ce nom, Dead Brothers, pour votre soirée
du cumbre.
Ils pourront même venir jouer en live.
Certainement.
Je pensais la même chose.
On va les appeler. On va les appeler. Ah, la suivante, elle date un peu, mais toujours bienvenue.
Le lion est mort.
Oui, bravo.
Le lion est mort ce soir.
Ça, c'est un très bon karaoké aussi, je pense.
Ah oui, ça, c'est plus facile.
Ça fait 20 ans, ça, non?
Oui, ça date.
Après, ça fait choubidoubidoubidou.
Ah, c'est un groupe qui chantait, sauf erreur, a cappella. Hein. A cappella.
Je connais que les oui.
C'est ce que tout le monde connaît.
Oui, c'est un peu autrichien.
Oui, un petit peu diodel, pourquoi pas. Peut-être que vous connaissez celle-ci, Sylvie Graber. J'ai un peu d'espoir.
REM.
Non.
C'est pas REM.
Ah, on est dans le même
je
esprit.
Je connais, mais jusqu'à ce que je trouve le titre.
Peut-être que je peux vous aider, on va avancer un petit peu.
Zombie.
Oui.
Bravo.
Oui, bravo. Je vous avais dit que je vous mettrais un point.
Merci.
Mais là, je vous le mets pour de vrai.
Mérité.
Oui, bravo. Marc-Antoine Berthaud.
Zéro point.
Séché, là, vraiment. Mais vous avez encore une chance. Avec le dernier morceau. Et alors là, franchement, ça va aller très vite.
Moi, j'attends un, j'espère qu'il arrive.
Ah, peut-être pas celui-là.
Non.
Les Rita Mitsuko.
Oui, bravo, je savais qu'il était pour vous. Avec le titre.
Marcia Baila.
Ah, il y a eu soufflage, mais bon. Ça irait bien pour votre soirée aussi, celui-là.
Oui.
Qu'est-ce que vous attendiez?
Johnny Cash.
Ah, on a hésité à la mettre.
Moi, j'attendais Iron Maiden avec Eddie, la mascotte, comme ça, là, la tête de mort.
C'est un thème infini, la mort dans les chansons. Donc, il faudra que vous reveniez pour un autre blind test. Si vous
et
voulez
on mettra
bien,
Johnny Cash.
Et on mettra pour sûr Johnny Cash. Mais pour l'instant, écoutons la suite de cette chanson, un petit bout en tout cas. Ça, c'est l'Erita Mitsuko que vous avez vu en concert, Marc-Antoine Berthaud. Vous nous le disiez hors micro, quelle chance! On va vous laisser repartir avec cette jolie information. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Vous êtes président de la Société d'études thanatologiques de Suisse romande. Il y a un site d'ailleurs qu'on peut visiter qui est très bien fait, avec plein d'infos. Merci d'avoir été avec nous.
Merci de votre invitation et bonne soirée.
Bonne suite à vous. On vous garde encore un peu avec nous, Silke Graber, parce que vous venez d'entamer déjà votre verre de vin et puis qu'on a encore quelques petites choses à vous faire écouter. Ça va ?
Bien sûr.
C'est l'heure d'écouter les infos pour le moment. Il est 21h sur la première.